Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbuk, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Anzac, bienvenue sur Malabar.
Bonjour Sahabat, ravi de faire ta connaissance et merci à Malabar de m'avoir invité.
Alors, tout d'abord, j'aimerais reprendre une petite phrase que tu avais écrite dans ton blog Maïvan, que j'ai trouvée sur Internet, où tu te décris comme un citoyen engagé, un voyageur et un écrivain. J'aimerais savoir si aujourd'hui, donc on est en 2023, quelques années se sont écoulées depuis, est-ce que tu te décris toujours avec ces trois qualificatifs ?
Oui, mais avec plus de maturité quand même, parce que je pense que c'est un blog que j'ai eu en 2005 et donc entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées.
D'accord, très bien. Donc pour qu'on te connaisse un peu plus, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie?
Alors, je suis Arinzak Karatuzaman. Je suis actuellement basé à Marseille. Et donc, je suis chercheur à l'Institut des coopératives de digital economy aux États-Unis. En fait, je fais des recherches sur l'économie sociale et solidaire, et notamment spécialisée dans les coopératives. Et donc, voilà. Voilà ce que je suis et ce que je fais actuellement.
Très bien. Alors, moi, j'ai trouvé ton profil sur LinkedIn. Je suis allée de profil en profil et je suis tombée sur le tien parce qu'il y avait il y a un nom dans ton intitulé de profil qui m'a beaucoup interpellée, qui est le TED Inaugural Fellow. Donc, les TED Talks, c'est quelque chose qui sont très réputés, très connus et qui associent deux choses. Le talk, donc le fait de faire des discours, je ne sais pas comment on traduit en français, et la technologie. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça, de ce qui est pour toi, ce que tu as vraiment inauguré, ce que tu as apporté à Mada, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce titre.
D'accord. Donc, effectivement, je suis un des premiers TED Fellows quand TED Technology, Entertainment and Design a ouvert son programme de fellowship en 2007. Donc, ils ont invité 40 jeunes Africains à venir discuter sur l'avenir de l'Afrique en Tanzanie. Et juste après ça, en 2009, ils ont ouvert vraiment officiellement et globalement le TED Fellowship, et donc j'étais aussi sélectionné une deuxième fois. Et donc dans TED, c'est une communauté en fait de personnes qui souhaitent changer le monde, donc changer le monde en 18 minutes à travers les talks, comme tu dis, enfin, c'est des présentations en fait en 18 minutes pour présenter une idée qui peut changer le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la licence pour organiser des TEDx à Antananarivo. Donc, j'en ai fait quelques-uns, même si je sais qu'on aurait pu faire plus de TEDx pour que les idées qui viennent de Madagascar puissent être aussi partagées dans le monde. Malheureusement, c'était compliqué parce qu'on a toujours vécu dans des contextes en fait à Madagascar n'ont pas vraiment pu développer le projet, mais le projet est toujours là et donc on continue, on espère faire d'autres événements emmener TED à Madagascar dans le futur.
D'accord, très bien. Donc Également sur ton blog, tu parles beaucoup de ta passion du numérique. Avant de reparler un peu de TED, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Où est-ce que tu as eu tes premières expériences pour qu'on se familiarise un peu avec ton parcours à toi?
D'accord. Donc moi, j'ai eu la chance de faire des études à Marseille, à Aix-en-Provence. Donc j'ai fait plusieurs filières, notamment le droit, mais aussi les sciences du langage. Et donc c'est surtout quand j'avais des matières de sciences de langage, en fait, que j'avais un professeur qui était passionné du numérique, qui tenait un blog à l'époque, c'était un des pionniers des blogueurs français. Et c'est ça qui m'a donné la passion, en fait, du numérique. Et puis chez nous aussi à la maison, enfin on avait des parents qui aimaient bien, en fait, les nouvelles technologies, les ordinateurs et tout ça. Donc quand on était petit, en fait, on avait déjà accès en fait à ces nouvelles technologies. Donc après j'ai continué à bloguer pendant 2 ans jusqu'en 2000. Enfin, j'ai continué à bloguer, enfin, j'ai commencé en 2005 et j'ai continué un peu à bloguer. Et de fil en aiguille, en fait, je n'arrivais plus à discuter, en fait, de Madagascar. Sur mon sujet principal, en fait, c'était Madagascar, et je n'arrivais plus à parler de Madagascar depuis la France. Et il fallait que il y avait cet appel du pays, il fallait que je vienne à Madagascar pour participer au développement du pays, au lieu d'écrire des articles de blog depuis la France, quoi. Et donc en 2007, j'ai décidé de rentrer à Madagascar, et on a commencé par former des jeunes pour qu'ils tiennent des blogs, et pour qu'ils puissent parler de leur passion. Et de fil en aiguille, les blogueurs qui étaient avec nous dans notre promotion, en fait, ont décidé de vouloir un toit où on pourrait justement s'échanger nos idées, avoir accès à Internet, avoir des machines, parce qu'à Madagascar aussi, il n'y avait pas forcément des ordinateurs chez soi. Et de là, on a créé le premier incubateur de Madag, qui s'appelait à l'époque Malagasy AI Hub, qui est ensuite devenu Abaca Innovation Hub, et qui était vraiment le premier centre d'incubation de nouvelles technologies à Madagascar en 2011. Donc voilà à peu près mon expérience en matière de technologie. Et cette création d'incubateur, en fait, m'est jusqu'à à travailler pour le gouvernement, au ministère des Télécoms et de ministère des Postes et des Télécommunications et des Nouvelles Technologies. Donc voilà.
D'accord, très bien. C'est un beau parcours. Toi, tu es tombé vraiment très tôt, du coup, dans le numérique, parce qu'à cette époque, il y a presque 20 ans, du coup, tout le monde n'avait pas Internet, comme tu disais, tout le monde n'avait pas cette passion. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le numérique? Parce qu'en plus, tu as commencé très tôt à écrire, à vouloir partager ton histoire sur Internet. Qu'est-ce que tu aimais dans le numérique?
Eh bien, justement, il n'y avait pas beaucoup de sujets sur Madagascar à l'époque. Et moi, en fait, j'étais comme ce que disait Monsieur Rabhi, genre le petit colibri qui voulait faire ce qu'il pouvait et tout. Donc moi, je voulais beaucoup de contenu malgache, et c'est ça qui était vraiment, moi, le moteur de ce que j'ai fait, en fait. Et donc je voulais toujours écrire, et faire écrire. Je souhaitais lire plein de choses. Mais comme à l'époque, c'était vraiment le taux de pénétration d'Internet malgache était vraiment très bas, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas assez de contenu, contrairement à aujourd'hui où on est déjà à 3 millions de personnes connectées à Madagascar. Donc c'est pas des contenus maintenant qui manquent. Donc je suis assez content de lire beaucoup de choses sur Manda, et d'écouter surtout des podcasts comme le tien maintenant.
Merci Arzak. Mais du coup, j'avais une question concernant le numérique, parce que justement, aujourd'hui, on dit qu'il y a quand même beaucoup de Malgaches qui sont connectés, mais qui sont connectés beaucoup à Facebook, qui pour eux sont vraiment la première source d'information. Et tu dis qu'il y a beaucoup de contenu. Alors là-dessus, ça m'intéresse parce que, étant donné que tu as eu quand même une place dans la politique malgache, je pense que tu peux avoir cette vision sur le type de contenu qui est peut-être lu. En fait, j'arrive pas à visualiser quel type de contenu, quel genre de choses recherchent les Malgaches, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tellement de contenu qui existent autour de Madagascar. Déjà, je me demande, la première question, c'est est-ce que le Malgache s'intéresse à ce qui se passe à Madagascar?
Oui, ben, je pense que oui, mais malheureusement, Internet dans plusieurs pays d'Afrique, et notamment à Madagascar, ça se résume à Facebook pour l'instant, vu que c'est le plus accessible et c'est le moins cher. Donc, à partir de là, quand on voit l'engouement des internautes, enfin des internautes sur Facebook, sur les sujets politiques ou différents sujets, on voit que ça participe beaucoup. On a maintenant plusieurs influenceurs, on a beaucoup de médias, des médias de news et d'actualité. Et je trouve que les Malgaches sont assez créatifs. Et d'ailleurs, même si on n'a pas d'accès à des sites de e-commerce pur pour différentes raisons, la créativité des jeunes à Madagascar font qu'ils arrivent à tout faire sur des plateformes comme Facebook. Donc, je trouve que c'est assez encourageant pour le futur qu'on ait un peu plus de contenu local, quoi.
Et tout à l'heure, en off, tu me disais que tu étais un afro-optimiste. Est-ce que tu es aussi un malgacho-optimiste ou pas?
Bien sûr, c'est mon pays, donc je crois que Madagascar a toujours sa place à jouer sur la scène internationale. Je crois qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour être un grand pays. Enfin, on a tous lu quelque part des arguments dans tous les documents de développement comme quoi Madagascar a la jeunesse, a la population qui est jeune, on a les ressources, on a la terre, on a la mer, on a tout pour être un beau pays. Et puis j'espère que un jour très bientôt, on le sera vraiment.
Et quand tu dis, il y a quelques années, quand tu avais eu le besoin de quitter la France pour revenir à Mada, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ce moment de ta vie, parce que tu vois, les gens qui écoutent Malabar, il y en a beaucoup qui sont plus à Mada ou qui sont peut-être à Mada et qui se demandent est-ce qu'ils devraient quitter le pays. Et en fait, avec ce podcast, j'aimerais beaucoup rendre réel ce genre de témoignage. Humaniser un peu ce genre de témoignages de gens qui ont quitté la France pour aller à Madagascar. Tu nous disais que c'était d'abord pour une question de capacité, parce que de la France, tu n'étais plus capable de parler de Mada, il fallait que tu sois là-bas. Et aussi, j'aimerais comprendre dans quel état d'esprit tu étais avant de partir. Est-ce que tu as préparé ton départ? Est-ce que tu y as pensé vraiment longtemps, ou est-ce que tu es parti sur un coup de tête? Comment s'est passée en fait cette préparation au retour au pays?
Eh ben, justement, ça rejoint ce que j'ai dit par rapport à l'expérience que j'ai eue dans la conférence TED que j'ai passée en Tanzanie, où on parlait de l'avenir de l'Afrique. Et donc, quand j'ai vu les autres participants qui avaient des super projets, mais qui étaient aussi faisables à Madagascar, ça m'a beaucoup inspiré et puis ça m'a beaucoup rassuré de dire OK, si je vais à Madagascar comme ça, en fait, même avec un sac au dos, en fait, je peux réussir parce que tout ce que je verrai comme problème et des problèmes, il y en a à Madagascar, tout ce que je verrai comme problème, je serai capable de transformer ça en opportunité. Donc, j'avais pas de programme, j'avais pas de plan, j'avais rien. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai quitté Marseille pour aller vivre à Madagascar. Et donc, j'ai passé par plusieurs expériences. Notamment, j'ai travaillé dans des ONG enfin, la plupart des personnes de la diaspora qui veulent développer l'Afrique. Donc, j'ai commencé par des ONG qui faisaient la conservation, parce que Madagascar est aussi connu pour ses ressources naturelles exceptionnelles et ses plantes et sa faune et sa flore endémiques. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait pas à grand-chose d'interdire des gens de ne pas accéder aux ressources naturelles qu'ils avaient, car ils étaient protégés. Mais en fait, il fallait créer de l'emploi pour que ces gens ne touchent pas en fait à ces ressources, notamment les lémuriens ou autres ressources en danger ou endémiques à Madagascar. Donc de là, j'étais parti dans le secteur privé pour développer l'entrepreneuriat. Et donc dans l'incubateur qu'on a créé, en fait, on faisait beaucoup de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. D'ailleurs, on a eu beaucoup de succès à l'époque, où on avait même un jeune qui était champion d'Afrique dans un concours pour les moins de 22 ans. Donc, c'était tout à fait possible. Et donc, je pense que le vrai outil de développement d'un pays comme Madagascar, c'est toujours l'entrepreneuriat. Je le crois toujours aujourd'hui. Et de là, en fait, j'ai quitté le secteur privé pour aller dans le secteur public. Et donc dans le secteur public, je découvre en fait tout ce qui fait en fait que le pays pourquoi en fait il y a des décisions politiques qu'on devrait prendre et qu'on ne prend pas et tout ça en fait parce qu'on le connaît pas quand on n'est pas à l'intérieur du système. Donc j'ai vraiment fait ce pas et j'ai travaillé 1 an et demi dans le ministère de l'Industrie. Et après, j'ai rejoint, comme je t'ai dit tout à l'heure, le ministère des Télécoms parce que je suis passionné de l'entrepreneuriat, mais aussi du digital. Donc, c'est deux ministères que j'ai eu l'occasion de voir vraiment de l'intérieur et dans un poste de quand même assez important parce que j'étais directeur général du ministère de l'Industrie et secrétaire général et directeur de cabinet du ministère des Postes et des Télécommunications. Et donc ces expériences dans ces différents domaines en fait m'ont fait prendre conscience en fait que il y a pas mal de problèmes et c'est pas tout rose même si on dit que il y a l'opportunité on devrait tous rentrer en Afrique pour développer l'Afrique mais et je pense qu'il faut quand même réfléchir et se préparer bien avant de rentrer parce que c'est jamais tout rose même si on a vraiment toute la volonté du monde pour vouloir développer le continent. Donc c'est ouais.
Et quand tu dis qu'il y avait beaucoup de problèmes quand tu étais une fois dans le secteur public, toi, tu avais un poste qui permettait quand même de prendre des décisions, d'avoir une vision aussi 360. Est-ce qu'il y a des problèmes que tu as pu résoudre? Est-ce que tu vois des avancées, dans ce que tu as fait?
Oui, ben oui, parce que là, par exemple, là, si aujourd'hui je suis en train de faire des recherches sur l'industrie et les coopératives, j'ai remarqué qu'on avait des outils comme ça à Madagascar qui dormaient depuis des années et alors que ça peut développer le pays. Là, par exemple, on a commencé en fait à écrire la stratégie nationale de développement des coopératives ou stratégie nationale de développement rural. Depuis 2017 et c'est maintenant que ça commence à sortir, donc ça prend beaucoup de temps, mais ça avance quand même. Et il y a aussi certaines choses que j'ai remarquées, en fait, même si on a des postes importants dans le gouvernement, c'est qu'il y a déjà en fait des programmes qui sont déjà préétablis, donc on vient pas dans un poste ministériel avec son idée, mais il y a déjà des plans et des stratégies qui sont déjà là. Et donc, on exécute juste, en fait, ces plans-là. Donc, c'est très difficile d'emmener l'innovation parce que c'est des budgets qui ont déjà été validés depuis un an, par exemple. C'est des programmes qui ont déjà été validés et depuis un moment et donc c'est assez difficile de changer des choses dans ce sens, sauf si on est vraiment écoutée et très proche des dirigeants, enfin, des décideurs, quoi.
Souvent, tu vois, ce que j'entends, c'est que quand tu veux aller à Mada, quand tu es malgache, hein, on dit toujours réfléchis bien, t'aventure pas, comme tu l'as dit toi. Et à contrario, on voit plein, plein, plein de Vazas qui y vont. Je pense qu'eux, ils n'ont pas énormément réfléchi, ils ont juste vu où étaient les opportunités de business. Et finalement, ils y vont. Par exemple, j'ai Émilie que j'ai interviewée dans ce podcast, c'était il y a 2 ans. Donc, elle avait 25 ans. Elle était tout juste diplômée d'une école de commerce. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise là-bas, qui dans le, elle fait du CRM. Et il y en a plein d'autres, des profils comme ça. Comment t'expliques quand même ce gap entre ce que nous, on nous dit, moi, je peux dire nous, parce que tu vois, je suis malgache, donc finalement, j'ai les mêmes principes qui sont posés dès le début, ce gap entre les Vazas et les Gas pour ce retour au pays.
Ah, et donc là, il s'agit d'abord bon, elle a un background assez solide, donc de commerce. Et après, bon, il y a aussi l'accès au financement, les moyens, parce que il faut pas oublier qu'à Madagascar, en fait, 1 euro, c'est 5 000 ariary, presque. Donc, quand tu arrives avec un peu de moyens, en tant que étranger à Madagascar, tu as plus de moyens donc que les locaux. Et c'est ça en fait qui fait que ils arrivent à réussir à plus. Et en plus de ça, il y a l'accès au marché que la plupart des jeunes malgaches ils ont pas, ou difficilement, parce que les Français, surtout ceux qui travaillent dans le secteur digital, ils ont déjà des clients où ils ont une facilité à trouver des clients à l'étranger, et le salaire local est très attractif donc pour ce genre de service, et c'est pour ça que ça se développe énormément.
Et tu penses pas que c'est aussi dû à la mentalité des Malgaches aussi d'avoir toujours ce sentiment de devoir se méfier. Je sais pas si c'est de la peur, mais tu vois, j'ai l'impression que les Malgaches sont plutôt là concrètement, par exemple sur le podcast, quand je demande une interview, généralement. Alors ça, ce sera plus vrai pour les femmes, mais les femmes ont du mal à se lancer, ont du mal à dire oui tout de suite. Ou alors on va me poser beaucoup de questions. A contrario, quand j'ai commencé le podcast et que j'avais demandé à tous ceux qui voulaient, si tu prenais 10 personnes, sur les 10, on va dire, il y en a 3 qui sont 3 qui sont Vaza et 7 qui sont malgaches, les Vaza vont tous dire oui directement, sans poser de questions. Les malgaches vont poser beaucoup de questions pour comprendre. Qu'est-ce que c'est le podcast? Où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on peut l'écouter? Tu vois? Et j'ai l'impression qu'en fait, ce sentiment de méfiance et de peur, il se transmet de génération en génération et que du coup, on n'avance pas.
Oui, bon, peut-être pas généralisé, mais il y a ça, il y a un petit peu de peur quand même, parce que comme je disais, c'est un pays où, enfin, on copie beaucoup, enfin, on n'est pas très, surtout en matière de business, en fait, on n'est pas toujours safe. Et parce que voilà, peut-être c'est la règle aussi dans, enfin, de business, d'être en compétition, mais c'est souvent, c'est ça qui rend, enfin, qui amène des déceptions souvent, parce que on se fait, enfin, il y a des choses, on se fait copier, on se fait, enfin, il y a des bâtons dans les roues, il y a tout, enfin, toute l'aventure de l'entrepreneur, quoi.
Et justement, tu disais que l'entrepreneuriat était important pour encore aujourd'hui pour faire avancer le pays. Je pense qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est la jeunesse. Et tu en as parlé tout à l'heure, la formation de la jeunesse. Toi qui as travaillé pour l'institution publique, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est l'image aujourd'hui, quelle est la place du jeune dans la société? Est-ce que tu vois des choses qui ont évolué? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans le digital à Madagascar et qui travaillent pour des entreprises qui sont à l'étranger. Donc, on a quand même les compétences, on arrive à former les Malgaches. Est-ce que tu as l'impression qu'on continue sur cette lancée? Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui là-dessus?
Je peux dire en matière de digital, si c'est la question, en fait, on a des compétences, on a naturellement la compétence, parce que aujourd'hui, sur le web et sur le digital, en fait, on a besoin de moins en moins de développer. Et en fait, on commence à automatiser beaucoup de choses. Et ça, en fait, Madagascar est très doué sur ça. D'ailleurs, on est numéro un, enfin, un des trois pays, si on n'est pas le premier, en fait, qui sont spécialisés dans des entraînements d'intelligence artificielle. Mais malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes sont compétents, mais ils sont pas organisés. Donc aujourd'hui, par exemple, là, dans mes recherches sur les coopératives, on aurait souhaité que les travailleurs, justement, ces travailleurs offshore, là, ils s'organisent et pour faire reconnaître, en fait, le savoir-faire et, en fait, demander plus de ce qu'on leur donne aujourd'hui en matière de salaire, en matière de protection, en matière de tous les droits, en fait, mais pas que se faire exploiter et faire l'intelligence artificielle du monde entier sans bénéficier sans en tirer bénéfice de ça, quoi.
Après, c'est à nous, oui, c'est à nous d'ensuite de voir. Je pense que quand tu commences, d'abord, faut te faire former pour comprendre comment ça marche, et après voir ensuite si toi tu peux te l'approprier pour pouvoir former les autres,
Voilà.
pour
Voilà, mais
transmettre.
Madagascar est très bon. Il est très très bon sur les call centers, sur les traitements divers et enfin toute cette industrie là et tout. Bon, moi au début j'étais pas très très pour parce que je pense que c'est quand même quelque part une sorte d'exploitation. Mais je pense que Madagascar a sa place, comme tu dis, si on se fait former et qu'on arrive à maîtriser tous les processus. Mais malheureusement, on n'a pas accès au marché. Donc c'est ça qui est encore notre paire de challenge.
Et aujourd'hui, on est en 2023, le digital a une place encore plus grande dans la société, dans plein de secteurs. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu tes réflexions sur le rôle d'Internet, le rôle des plateformes numériques dans l'avancement du développement social et économique à Madagascar?
Ben, c'est oui. Madagascar a un projet de digitalisation, en fait, depuis un moment. On a même maintenant des bureaux spécialisés pour le développement numérique à Madagascar qui a associé aujourd'hui à la présidence, mais on ne voit pas encore le résultat, en fait, de ce travail qui a été fait. On parle beaucoup de numérisation, de digitalisation dans les rues communes et mais je pense que ça prend du temps. Je sais pas si c'est une volonté politique ou c'est vraiment un processus qui prend du temps, mais je pense que on peut faire ce saut normalement, mais je sais pas, ça manque encore. Il y a encore beaucoup de choses qui manquent en matière de digital.
D'accord. Mais après, on est en plein. Est-ce que c'est vrai qu'à Madagascar, on est aujourd'hui, il y a à peu près 10 ans en Europe? On est sur ce créneau-là
De
ou pas?
retard?
Oui.
On est très très en retard. En fait, c'est un saut, en fait, on aurait pu faire, parce qu'en numérique, en fait, on peut avoir accès. Quand tu as accès à Internet, quand tu as Internet, c'est comme si tu avais accès en Espagne et pareil, comme si tu avais accès à Paris. Après, c'est la créativité qui va faire la différence. Donc, normalement, on ne doit pas être en retard. Maintenant, Maintenant, c'est à l'échelle qu'on est super en retard. On est super en retard. Je sais pas. Et pourtant, on a des compétences. Et voilà, c'est un constat, mais qui est triste. Mais voilà.
Et aujourd'hui, Arzak, tu habites à Marseille. Est-ce que tu te dis que dans quelques années, tu pourras retourner vivre à Madagascar ou c'est un projet qui pour toi est terminé et tu as fait ce que tu avais à faire?
Bon, je souhaite toujours pouvoir rentrer et continuer à contribuer au développement de Madagascar d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, je suis parti et que je souhaite vraiment le meilleur pour Madagascar.
Génial. Avant de terminer, Arta, j'avais quelques questions. C'est des questions un peu plus personnelles sur ton point de vue sur Mada que je pose à tous mes invités pour clôturer l'interview. Est-ce que tu es prêt?
Oui, je suis prêt.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré à Madagascar, il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup Fort Dauphin.
Ton plat malgache préféré?
Mon plat préféré malgache. Waouh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bwanzpour, mais ce que je suis devenu végétarien, donc je ne sais pas quel
Le
plat. Il n'y a pas de
Wansboul
viande à
sans
Madagascar.
des tmissiennes,
Sans
sans
viande
viande.
tunisienne. Oui.
ton plus beau souvenir à Madagascar?
Alors, mon plus beau souvenir à Madagascar. C'est trop dur, tes questions. J'ai eu beaucoup de bons moments à Madagascar, mais mon plus beau souvenir à Madagascar, est-ce que je peux passer? Je sais pas,
Tu peux
j'ai pas
passer,
de.
tu peux passer. Est-ce que tu as un mot ou une expression qui te rappelle souvent Madagascar?
Oui, j'aime beaucoup en fait le mot veloum, qui veut dire au revoir en fait en malgache. Et dans veloum, il y a un souhait de vie à toutes les personnes en fait. Et donc chaque malgache, chaque fois qu'on se dit au revoir, c'est en même temps un souhait pour la vie et pour vivre mieux et bien.
Et pour terminer, est-ce que tu as un mot, un message que tu aimerais passer aux auditeurs de Malabar?
Alors, je souhaiterais encourager Malabar à produire encore plus de podcasts à l'avenir. Et ben, j'aimerais partager en fait aux auditeurs en fait. J'aimerais dire de continuer à avoir d'être positif et d'avoir de garder espoir sur un pays comme Madagascar. Et parce que des fois, même si on n'a pas d'espoir, en fait, on peut créer à travers des discussions qui nous font avancer, comme des discussions qu'on a aujourd'hui.
Très bien. Et si les auditeurs veulent entrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, Arzak?
Et je suis sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram.
D'accord, super. Donc.
Arinzac, et la plupart du temps, c'est moi. Pour
D'accord.
l'instant.
Parfait, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, très bonne continuation.
Merci beaucoup, Samadj. À bientôt. Deloum.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Simbach Rappé Farnouche. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, Veloum!